BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon.
Et on prend tout de suite la direction de Vivatech, où nous attend Nicolas Hieronymus, le directeur général du groupe L'Oréal. Bonsoir Nicolas Hieronymus, merci beaucoup d'être avec nous.
Bonsoir Edwige, ravi d'être avec vous depuis Vivatech.
La prochaine fois, on se retrouvera peut-être, je ne sais pas, dans le métaverse, on verra. Alors pour vous, vous dites, hein, je vous cite, vous dites que pour L'Oréal, c'est un nouveau défi stratégique, ce qu'on appelle la beauty tech, ou alors encore mieux, la beauté augmentée. Vaste sujet quand on dirige le leader mondial de la cosmétique, non ? Pourquoi est-ce que vous êtes à Vivatech, à part le fait que c'est bien d'être à Vivatech ?
Nous sommes à Vivatech parce que c'est l'opportunité pour nous de montrer que nous sommes effectivement un leader de la beauty tech et comment la technologie nous permet d'augmenter la performance de nos produits, l'expérience que nous proposons à nos consommateurs et l'efficacité de nos produits. Donc il y a sur notre stand qui fait 325 mètres carrés de nombreuses expériences boostées par la technologie, incluant le métaverse d'ailleurs, mais surtout avec des choses très réelles qui permettent aux consommateurs d'être plus satisfaits avec nos produits.
Oui, mais par exemple, si on essaie d'être concret, parce que je suis une femme évidemment, je sais pas, quand je mets du rouge à lèvres, c'est quoi la beauty tech? Quand je me lave les cheveux, c'est quoi la beauty tech? Ou quand je me coiffe, c'est ce que vous faites, c'est le métier de L'Oréal. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus et où est-ce que la tech peut influer justement sur les produits que vous vendez ?
Eh bien écoutez, je vais vous donner trois exemples dans ce que vous venez de citer. Le premier, c'est sur le rouge à lèvres. On présente sur le stand de L'Oréal un outil ou une machine qui s'appelle Perso avec la marque Yves Saint Laurent, qui vous permet, à l'aide de l'intelligence artificielle, des essais virtuels et donc de la réalité augmentée, de créer un rouge à lèvres sur mesure, chaque jour, avec une seule machine, en fonction de la robe que vous portez, de votre humeur, de la star que vous avez vue à la télé et que vous voulez, à laquelle vous voulez ressembler, au moins en termes de couleur de rouge à lèvres. Et donc, ce petit outil vous fait chaque jour la couleur de rouge à lèvres dont vous avez besoin. Donc ça, c'est vraiment la rencontre de la formule, de la personnalisation et du diagnostic extrêmement précis.
Mais cette personnalisation, elle se fait où ? Elle se fait chez moi ?
Elle se fait chez vous.
Elle se fait chez moi. On achète une machine, d'accord, ok.
Exactement. On achète une machine qu'on a lancée, on a présentée au CES l'année dernière. Elle a été lancée en Asie notamment et elle commence à arriver dans le monde entier. On achète une machine, on a des cartouches de rouge à lèvres et de différentes couleurs. Et en fait, avec ces trois cartouches, on fait quasiment une infinité de teintes possibles à chaque fois sur mesure qu'on peut soit refaire tous les jours, soit changer chaque jour.
Et qu'est-ce que ça va vous apporter ? Qu'est-ce que ça va nous apporter ? Qu'est-ce que ça va apporter à la beauté de vos clientes ? L'Oréal, parce que je le vaux bien, on est d'accord. Mais enfin, qu'est-ce que la tech, le métaverse va m'apporter ?
Dans l'exemple qu'on vient de citer, on a d'abord la personnalisation.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est vraiment un produit qui est fait sur mesure pour la consommatrice. Okay. Et aussi le développement durable, parce que finalement, quand vous avez cette machine qui vous produit quotidiennement du rouge à lèvres sans avoir besoin d'emballage plastique, d'acheter 10 teintes différentes, on est aussi dans quelque chose qui est plus durable. Mais je vais vous donner deux autres exemples qui me paraissent très importants, notamment dans le domaine du développement durable. Nous avons fait un partenariat avec cette start-up qui s'appelle Gyoza, qui a développé un pommeau de douche qu'on est en train de déployer dans tous les salons de coiffure de la planète, qui permet de réduire de 60% la consommation d'eau nécessaire pour rincer un shampoing, une coloration, en divisant par 10 la taille des gouttes. Et donc vous avez quelque chose qui à nouveau offre un service parfait à la consommatrice tout en réduisant l'empreinte de développement durable. Et puis je vais vous donner le dernier exemple parce que celui-là il est en point de vente et il est particulièrement exceptionnel. C'est quelque chose qui s'appelle Sensation, qu'on a développé avec une start-up qui s'appelle Emotive, qui permet, à l'aide d'un petit questionnaire, mais surtout d'un casque d'électroencéphalogramme qui permet de mesurer les émotions, de vous recommander exactement le parfum qui va vous correspondre le mieux, qui va déclencher chez vous les émotions les plus positives. Et finalement, face à la jungle des parfums existants sur le marché, des milliers de possibilités,
mais si c'est pas un
là, vous allez avoir le parfum On va se débrouiller que on a, vous savez, on a beaucoup de parfums L'Oréal, on a beaucoup de marques, donc on a de quoi satisfaire tout le monde sans avoir besoin de recommander les parfums des autres.
Et donc pour vous c'est un vrai défi Nicolas Hieronymus, on sait que vous avez la passation de pouvoir avec Jean-Paul Lagon, elle s'est faite ici dans le grand journal de l'Écho. C'est pour vous, vous considérez que c'est stratégique pour L'Oréal?
Oui, parce qu'au fond, on a deux grandes transformations qui sont devant nous et dans lesquelles on est engagé. C'est d'un côté la transformation développement durable, la carbone neutralité, l'élimination du plastique, en tout cas du plastique vierge. Et de l'autre, la transformation technologique qui, avec l'aide notamment de la data, va rendre nos chercheurs plus efficaces, nos produits plus efficaces. Et d'ailleurs, ces deux grandes transformations se rejoignent, puisque, comme je viens d'en donner deux ou trois exemples, souvent la technologie permet aussi d'accélérer la transformation vers plus de durabilité. Donc effectivement, ce sont deux transformations extrêmement stratégiques qui vont renforcer l'avantage compétitif de L'Oréal par rapport à ses principaux concurrents, avec des produits à la fois plus performants et plus durables.
Oui, lorsqu'on parle de beauté augmentée, est-ce que par exemple... On pourra, je ne sais pas, dans le métaverse, on pourra avoir, on pourra se voir tel qu'on pourrait être avec des produits L'Oréal.
Oui, bien sûr, on y travaille. Alors, vous savez que pour l'instant, le métaverse sont plutôt des représentations de chacun qui sont des avatars, qui sont plus, qui relèvent plus du dessin animé que du grand réalisme.
Oui.
Mais on voit que de plus en plus, les jeunes qui sont les adeptes du gaming aiment à se voir, à se transformer avec des skins. Et ces skins, ça peut être du maquillage de Saint Laurent, de NYX, qui est présente ici à Vivatech, la création d'un DAO, c'est-à-dire un endroit où on va créer une espèce de labels de disques où tous les créateurs de maquillage virtuel vont venir proposer des idées à la marque NYX et donc aux consommateurs. Donc oui, demain on va pouvoir essayer des produits L'Oréal dans le métaverse, et évidemment avec l'intention de les vendre dans le monde réel.
Oui. Encore deux questions là-dessus, puis après je voudrais quand même qu'on voit l'impact que la crise en Ukraine a sur L'Oréal, les difficultés d'approvisionnement, et puis surtout l'inflation des prix. À Davos, vous avez dit récemment, il n'y a pas encore d'inflation chez nous, mais je vais peut-être vous reposer la question, ça a peut-être changé. Juste un point, comment vous organisez au sein de L'Oréal justement pour répondre à ce défi technologique, Nicolas?
Mais écoutez, c'est sûr qu'on a pris une décision très importante et assez unique, qui est de regrouper sous le même leadership la recherche et innovation de L'Oréal et la technologie. Et on a confié cette responsabilité à Barbara Lavernos, que j'ai nommée directrice générale adjointe du groupe. Donc c'est véritablement le symbole très fort de l'importance de cette transformation pour le groupe. Et aujourd'hui, nous avons des équipes d'informaticiens, des data scientists, des responsables digitaux, ouais, qui travaillent en collaboration étroite avec nos chercheurs et nos biologistes pour inventer cette beauté du futur augmentée par la technologie.
Ouais. Et donc, c'est sous la même division, c'est important. Justement, un mot encore, vous avez créé un fonds pour aider les femmes, à développer leur propre start-up. Un fonds de combien ?
Écoutez, c'est un fonds qui a été doté, je crois, de 50 millions d'euros, mais je ne suis pas sûr, je n'ai pas le chiffre exact en tête. Mais ce qui est important, c'est la démarche, c'est qu'au fond, L'Oréal, avec son fonds Bold, veut vraiment faciliter l'accès à l'entrepreneuriat et au succès des femmes. Vous savez, L'Oréal Paris, parce que je le vaux bien depuis toujours, c'est le Women Empowerment, pour utiliser le terme anglo-saxon consacré. Et on a véritablement constaté que les femmes étaient sous-représentées dans les start-up et dans l'entrepreneuriat. Et que donc, on veut les aider à le devenir, on veut les encourager, on veut les aider. Et c'est la raison derrière la création de ce fonds.
Alors, vous avez dit, pour l'instant, l'inflation n'a pas encore eu d'impact sur l'achat de produits cosmétiques. Est-ce que vous diriez, prononceriez cette phrase ce soir, Nicolas Hieronymus?
Oui, écoutez, j'ai dit ça et je le confirme aujourd'hui, même si je suis tout à fait conscient que l'inflation augmente et que certaines parties de la population peuvent avoir plus de difficultés à accéder aux produits. Mais on a toujours constaté dans l'histoire que même dans les périodes de récession, la beauté est une catégorie refuge, une catégorie où les gens viennent se faire plaisir, avec des catégories comme le parfum, comme le rouge à lèvres, qui sont en explosion, en plus avec la disparition du masque. Et aujourd'hui, dans le monde entier, on voit que malgré des augmentations qui restent modérées des prix, parce que nous avons choisi de ne pas transmettre la totalité de nos hausses de coûts de revient aux consommateurs, mais on ne voit absolument pas de réduction de la consommation. Au contraire, on ressent plutôt un espèce de carpe diem en ce moment, après ces 2 ans de Covid, ouais, où les consommatrices et les consommateurs achètent des produits de beauté,
oui,
pour se faire plaisir, pour être mieux,
mais
dans leur peau,
avez...
pour retourner à la vie sociale.
Pardon,
assez confiant pour les mois qui viennent.
Vous avez augmenté vos prix de combien ?
Je ne peux pas vous donner une réponse générale, puisque la réponse est totalement différente selon qu'on est en France,
oui,
selon qu'on est dans le luxe ou dans le mass market.
Restons
en France, on a dû augmenter en début d'année d'à peu près 3%.
Oui. Parce qu'il y a des négociations commerciales qui sont de nouveau en cours, notamment négociations commerciales avec la grande distribution. On dit que vous demandez des augmentations de prix refusées par la grande distribution. C'est un bras de fer avec eux ?
Écoutez, les relations et les discussions qu'on a avec la grande distribution française, comme ailleurs d'ailleurs, sont très constructives parce qu'elles sont transparentes.
Oui.
On ne cherche pas à profiter d'une situation. On partage avec eux les augmentations de prix de revient que nous recevons et qu'ils voient eux-mêmes sur leur marque propre. Donc, ils savent très bien qu'on ne leur raconte pas d'histoire. Et à partir de là, on essaie de trouver un terrain d'entente où les consommateurs restent satisfaits et où chacun peut gérer son compte d'exploitation et continuer à générer de la croissance.
Oui. Donc vous avez quand même une augmentation des prix de revient, hein. C'est assez logique, hein, du reste, lorsqu'on voit les difficultés d'approvisionnement.
Bien sûr, on a des matières premières qui ont augmenté, les dérivés d'huile, on a aussi des augmentations des prix de transport, mais on a aussi une structure de prix et de marque qui est suffisamment vaste pour nous permettre de gérer ça sans pénaliser le consommateur de façon trop importante.
Ouais.
Et aujourd'hui, ça se retrouve dans nos ventes qui restent très positives.
Est-ce que vous avez complètement fermé le marché russe ? Ça veut dire que vous ne vendez plus en Russie ? L'Oréal.
Aujourd'hui, nous avons respecté la totalité des sanctions et même un peu au-delà qui ont été recommandées par l'Union européenne ou les États-Unis. Nous avons arrêté plus de 80% de nos marques et nous avons gardé la commercialisation de quelques produits essentiels du quotidien, des produits des soins de la peau qui traitent l'eczéma, par exemple, de dermatologie et qui nous permettent de maintenir notre activité sur place, de payer nos collaborateurs russes qui sont aujourd'hui sur le marché, sans pour autant investir en publicité ou faire de profit en Russie, et donc en étant totalement en adhésion avec nos valeurs et avec la condamnation de l'invasion russe en Ukraine.
Oui, le manque à gagner pour L'Oréal est de combien à peu près, si on regarde sur le dernier trimestre ? Ça doit être très important.
Écoutez,
parce qu'en Russie, vous
La Russie, c'est un peu moins de 2% de notre chiffre d'affaires.
D'accord.
Donc ce n'est pas un enjeu économique majeur, c'est plus un enjeu humain, celui de nos collaborateurs ukrainiens, mais aussi celui de nos collaborateurs russes.
Et sur la Chine aussi, parce que ce sont des pays quand même où on voit, où L'Oréal, il suffit d'aller se promener, on voit l'importance que vous avez là-bas. Et la Chine, pour vous, c'est aussi, vous êtes aussi pénalisé.
Écoutez, la Chine, comme tout le monde, nous avons été pénalisés par les confinements importants qui ont eu lieu en avril-mai. Mais au total, le business reste très positif, notamment au mois de mai et encore plus au mois de juin avec la réouverture. Pourquoi ? Parce que en Chine, nous faisons plus de 50% de notre business en e-commerce. Et donc même quand les magasins sont fermés, les consommateurs peuvent acheter nos produits et les essayer virtuellement en ligne. Et donc, si je prends l'exemple du mois de mai, les ventes du marché en e-commerce ont dû augmenter d'à peu près 5%. Et L'Oréal, qui est le groupe leader en Chine, a vu les siennes en e-commerce à nouveau augmenter de 30%.
Ouais.
Donc on voit que même dans un contexte très difficile, on arrive à faire de la croissance en Chine et je reste extrêmement confiant sur le développement de ce marché qui va devenir, dans les années qui viennent, le premier marché mondial de la beauté.
Oui, d'accord. Et donc confiant sur la première semestre pour L'Oréal, hein ? évidemment.
Tout à fait.
Oui. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir partagé avec nous cette beauté augmentée, cette tech beauty ou beauty tech, comme vous le voulez. Merci beaucoup. On vous laisse à Vivatech. Merci beaucoup, Nicolas Hieronymus, donc le patron du groupe L'Oréal. Tout de suite, bien sûr, l'actualité.
BFM Business, le grand journal de l'écho, l'alerte, le Chypre.
On parle beaucoup. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Edwige.
J'étais déjà reparti à Vivatech, parler de digitalisation.
En l'occurrence, bah, on y reste un peu.
On y reste même beaucoup. En tout cas, c'est intéressant. Vous vous penchez sur une étude qui a été faite par le BCG et le MEDEF qui montre que la digitalisation des entreprises, elles le font. Mais en tous les cas, ça reste quand même, alors pour reprendre votre expression fétiche, ça reste quand même un peu superficiel. Expliquez-nous.
Oui, effectivement, quand on regarde cette étude, les premiers résultats sont assez conformes à ce qu'on attend. C'est-à-dire que les entreprises font des efforts, effectivement, pour développer et accélérer leur transition digitale. Ainsi, quand on les interroge, par exemple, on se rend compte que, à la faveur de la pandémie qui a incontestablement accéléré l'effort numérique depuis 2 ans, puisque vous connaissez ces estimations faites par un autre cabinet qui dit, grosso modo, on a fait en 2 ans à cause de la pandémie ce qu'on aurait peut-être mis 7 ans ou 8 ans à faire. Mais effectivement, il y a presque les 3/4 des entreprises qui ont mis en place des nouveaux outils de communication et de travail collaboratif, 80% qui ont pris des mesures pour renforcer leur cybersécurité et les 3/4 qui effectivement voient la nécessité de réduire l'impact carbone de leurs activités numériques. Mais ces préoccupations, si elles s'observent chez la majorité des entreprises, eh bien on se rend compte effectivement que quand on creuse, cette transformation, elle reste assez effectivement superficielle. Oui, elle
dématérialise. En trompe-l'œil, vous dites.
Oui, parce qu'en fait, il y a la couche, il y a le vernis au-dessus où on informatise, on met du numérique, mais la vraie transformation de tous les modes de fonctionnement de l'entreprise, on n'y est pas encore, puisque il y en a qui effectivement, alors le phénomène classique, c'est la dématérialisation, par exemple, de la relation client, le renforcement de la présence en ligne, etc. Mais il y a 26% seulement des entreprises qui ont mis en place un nouveau mode de commercialisation en ligne, type click and collect. Il y a plus de la moitié des entreprises qui n'ont pas démarré et ne réfléchissent pas encore à la façon de valoriser leurs données. Par exemple, frilosité, qui peut aussi s'expliquer par un manque de compétences, puisqu'il y a 6 entreprises sur 10 qui n'ont pas recruté de profil dans le digital récemment. Et donc, les auteurs identifient effectivement un certain nombre de freins, notamment la méconnaissance et la sous-utilisation des aides et des initiatives publiques en faveur de la transformation digitale des TPE. Il y en a 56%, par exemple, qui disent qu'elles ne connaissent pas les aides du volet numérique du plan de relance. Et donc, il y a quelques
pistes. Voilà qu'elles écoutent BFM Business.
Pas assez, manifestement. Alors, il y a quelques pistes qui sont proposées. La première, c'est effectivement, tout passe par là, c'est le développement encore et toujours des infrastructures sur tout le territoire, donc de la fibre, de la 5G, etc. Et puis, développer plus les liens entre les start-up très innovantes et puis les vieilles, entre guillemets, entreprises pour essayer de stimuler un peu nos entreprises les plus traditionnelles.
Oui, surtout qu'on sait bien que l'avenir de l'industrie française passe justement par ces technologies qui peuvent transformer. Du reste, on en parlera avec Elisabeth Ducoté, la patronne de Twan, elle, qui est très très bonne là-dedans. Merci Emmanuel Lechy d'avoir tiré cette sonnette d'alarme quand même sur la digitalisation efficace des entreprises françaises, surtout des ETI. Dans un instant, c'est Hervé Legros qui est avec nous. Il est président fondateur du groupe Alila. Il est promoteur immobilier dans le logement social. Comme quoi, on peut gagner de l'argent dans le logement social. À tout de suite.
BFM Business, le grand journal de l'écho. Edwige Chevrillon.
Notre invité, il est promoteur immobilier, mais dans le logement social, ce qui peut paraître un peu paradoxal. Bonsoir Hervé Legros.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes président et fondateur du groupe Alila, que vous avez créé à Lyon il y a quelques années. Vous avez un parcours quand même assez atypique, ce que permet souvent la promotion immobilière, parce que je crois que vous avez juste un CAP de plombier. Donc,
c'est ça.
Voilà, et vous êtes devenu chef d'entreprise.
Exactement, comme quoi l'ascenseur social dans notre pays existe bien.
Ça peut fonctionner.
Ça peut fonctionner.
En deux mots, les données de votre groupe, Alila, c'est chiffre d'affaires.
Top 10, 730 millions de chiffre d'affaires en 2021, 8000 logements réservés, 175 opérations. Et surtout, Alila est le leader du logement pour tous.
Oui.
Et je vais vous expliquer qu'est-ce que le logement pour tous. C'est-à-dire que vous avez dit le logement social, mais ce n'est pas que. C'est aussi les classes moyennes, enfin, tous les oubliés.
Logement intermédiaire, hein, comme voilà. Vous dites. Alors souvent, vous définissez, du reste, un beau slogan, je vous félicite, comme le free du logement. Notamment du logement social ou intermédiaire. Donc, mais comment est-ce que vous y arrivez? Parce que vous avez créé un modèle économique. Dites-vous, c'est quoi votre modèle économique? Parce que il est le même pour tout le monde, entre guillemets.
Vous avez raison. En fait, on fait le même modèle économique qu'un Nexity ou que d'autres. On achète des terrains à des particuliers, on fait des opérations. La seule chose aujourd'hui qu'il y a, c'est qu'on considère notre métier comme un métier de centimier. Voilà, c'est-à-dire que...
Un métier de...
Centimier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait un métier voilà, de petits sous. Et c'est vrai que beaucoup de promoteurs aujourd'hui ont tourné le logement en fait en finalisation de logement. Et nous, aujourd'hui, on fait des logements pour des gens. Et je peux vous assurer que quand vous faites des logements pour des gens, directement, vous avez aussi un modèle économique qui fonctionne parce que vous faites des logements plus grands, plus adaptés, et donc qui vous coûtent moins cher à construire.
Oui, mais en même temps, vous-même, vous avez publié une tribune où vous avez dit, attention, le logement est en train de devenir un produit de luxe. Donc, vous créez, si vous avez une logique de centimier, centime près, c'est en même temps, là, c'est vrai qu'on rentre dans le luxe, toutes les nouvelles normes environnementales renchérissent le coût de combien à peu près aujourd'hui quand on construit un logement?
Non, mais de quelques pourcents. Mais quand je dis en fait le logement est un produit de luxe, c'est parce qu'aujourd'hui en fait le logement est un produit rare. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si demain vous cherchez même vous un logement pour acheter, il n'y en a pas. Et moi, dans mon secteur du logement social ou du secteur du logement intermédiaire, qui touche quand même 83% de la population française, c'est 10 ans d'attente pour avoir un logement. Et donc quand je dis c'est un produit de luxe, c'est parce que quand vous avez un produit qui est rare, vous le payez plus cher. Et aujourd'hui, malheureusement, le logement n'est plus en adéquation avec les revenus des Français.
Ah, justement, j'étais interpellé en préparant cette interview, c'est que vous avez 70% des Français qui ont
70%
qui peuvent avoir accès à un logement social. Dit social, et 83%, vous l'avez rappelé, pour un logement intermédiaire.
Oui.
Mais donc c'est quasiment la totalité des Français.
Bien sûr.
Ça veut dire que les critères sont trop élevés. Enfin, vous voyez, il faudrait que ça soit, je sais pas, réservé aux gens les plus démunis. Donc il y a un tiers des Français qui peuvent avoir accès, non?
Mais je vais peut-être vous dire quelque chose qui va vous paraître assez fou, mais les gens sont démunis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie crise du logement. Deux chiffres. Il y a 4,5 millions de mal logés. Il y a 3 millions de personnes qui attendent un logement social en France. À Lyon, à Paris ou dans les grandes métropoles, c'est entre 8 et 10 ans pour avoir un logement social. Et objectivement, il y a une vraie précarité aujourd'hui du logement. Et c'est pour ça que j'ai tendance à vouloir dire que le logement aujourd'hui est devenu un produit de luxe, parce que depuis 5 ans maintenant, le logement est maltraité. Il n'y a d'ailleurs pas de ministère du logement, pas de ministre du logement.
Oui.
Et c'est quand même insensé quand c'est le premier.
Ça va venir.
C'est le première dépense des foyers des Français dans leur budget.
Oui, quand je parlais de précarité financière. Je suis d'accord qu'il y a une précarité du logement, mais précarité financière.
Mais je la vois chaque jour. C'est-à-dire que des millions de gens aujourd'hui peuvent avoir accès à un logement social, mais ils ne le savent pas. Et indirectement, heureusement, parce qu'on n'en construit pas assez. Mais la problématique aujourd'hui qu'on a, c'est surtout le logement en général. Comme on l'a dit, aujourd'hui, on n'a pas de ministère du logement, le logement est maltraité. Il faut aujourd'hui que le logement soit considéré comme un produit de première nécessité. Il faut que le gouvernement prenne conscience que le logement est la première dépense des foyers des Français. Et quand on parle de crise du pouvoir d'achat, le logement ne peut pas aujourd'hui être exclu et être maltraité comme il est actuellement.
D'accord, Hervé Le Gros, mais si on prend le président du gouvernement, donc qui est presque encore en place, Emmanuel Wargon, qui du reste a été battu, avant c'était Julien Normandie, avant il y a eu...
Je parle du gouvernement depuis 2017.
Oui, mais donc il y a eu plein de ministres du logement qui se sont succédés, et la situation aujourd'hui, elle n'est pas due au fait qu'il n'y ait pas de ministre de logement dans le nouveau gouvernement, mais ce sont des ministres du logement...
Ça fait 25 ans aujourd'hui que malheureusement on n'a pas de politique d'aménagement non plus du territoire et de logement.
Oui, mais
parce que vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, la politique du logement pour nos politiques, c'est un segment qui est beaucoup trop long pour eux. C'est-à-dire que si demain vous mettez des éléments en place, aujourd'hui une loi en place, vous aurez des effets dans 7 à 8 ans. Et de toute façon, on n'échappera pas à un plan de relance. Aujourd'hui, entre la problématique du coût de construction, la problématique aujourd'hui du pouvoir d'achat des personnes qui achètent un logement, le logement en général, les maires non plus qui ne bâtissent plus, parce qu'on a quand même une problématique aujourd'hui nationale,
c'est clair.
On ne veut plus construire. Aujourd'hui, clairement, on a besoin quand même d'avoir patron à la tête d'un ministère qui aujourd'hui gère tous ces problèmes, parce que je vous assure que s'il arrive au ministère du logement, il aura quand même tout quoi faire.
Oui, mais en même temps, je sais pas, là, vous venez de publier vos chiffres, hein, Hervé Le Gros.
Je suis en baisse de 3% de mon chiffre d'affaires par rapport à 2021. Par, pas à 2020, pardon. Oui. Ce qui était quand même pas rêvé. J'étais en croissance depuis 15 ans, oui, à deux chiffres. Donc si demain je veux être le Free de l'immobilier, c'est un petit clin d'œil aujourd'hui à Free, enfin, il faut quand même qu'aujourd'hui on développe. Et quand vous voyez aujourd'hui les mal logés et par rapport aujourd'hui à la précarité qu'il y a dans le logement, il manque aujourd'hui des millions de logements en France, et je vous assure,
ça, tout le monde dit
il faut
ça,
les construire. Il faut les construire.
C'est comme dans le téléphone. C'est comme dans le téléphone. Il faut une consolidation. Il faut une consolidation.
Non, mais là, c'est plus une consolidation.
Des promoteurs immobiliers. Non,
certainement. Mais quand on voit aujourd'hui que le premier acteur national aujourd'hui fait à peine 20 000 logements par an en réservation, c'est quand même très faible. Aujourd'hui, on a aujourd'hui une précarité. Il faut savoir qu'on a voulu métropoliser dans les zones tendues, et malheureusement, on ne construit pas assez. Enfin, en tout cas, c'est le constat que fait Adila. On est quand même dans 10 régions, 13 agences, et aujourd'hui, il y a un vrai cri d'alarme, en tout cas, sur la non-production de logements depuis 5 ans.
Ouais. Juste un point, peut-être, sur le point d'actualité. J'ai quelques questions comme ça. Bon, sur la fameuse nouvelle norme environnementale.
La RE 2020. La
RE 2020, oui. Ou 2020, comme on dit souvent.
Oui, 2020.
Ça renchérit les coûts de combien, vous pensez? Je dis juste 3-4%.
Non.
D'autres, 10-15%.
Alors, ça dépend. Après, c'est soit on parle aujourd'hui de logements collectifs, comme vous voyez l'immeuble, d'ailleurs, oui, que réalise Adila derrière vous, ou soit des maisons individuelles. Vous avez vu que Geoxia a déposé le bilan, quand même, le deuxième constructeur de maisons individuelles de France. Je peux vous assurer que la RE 2020 est terrible pour la maison individuelle. J'en fais à peu près 800 à 1000 par an. Et donc aujourd'hui, ça surenchérit le coût de 20%. Sans parler aujourd'hui des augmentations de coûts classiques. Le collectif aujourd'hui n'est pas forcément touché, car aujourd'hui la RE 2020 doit monter progressivement et doit après toucher sa plateforme à 2025. Mais clairement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même cette norme qui se rajoute, surtout avec le surenchèrement aujourd'hui des coûts et des matériaux.
Et bien voilà, justement.
Ça, c'est une vraie problématique.
Chez vous, oui, du reste, vous avez dit, on avait une légère baisse du chiffre d'affaires. Hein,
à cause de ça.
J'aurais pu avoir le même niveau de chiffre d'affaires, mais il y a certaines constructions, j'ai préféré différer en 2022.
Tout à fait.
À cause du coût des matériaux, l'absence.
Vous savez, aujourd'hui, Adila est une entreprise familiale. Je suis, je pense, un très bon chef d'entreprise, en tout cas un bon gestionnaire. Et j'ai voulu privilégier.
Familiale, c'est votre groupe.
Non, mais j'ai voulu privilégier, en fait, la rentabilité au chiffre d'affaires.
Ouais.
Et quand je dis ça, j'ai décalé plus de 90 millions de chiffre d'affaires de 2021 à 2022.
Ouais.
Car nos retours d'appel d'offres d'entreprise, on est entre 30 et 50% par rapport à la norme et par rapport à ce qu'on produit habituellement. Et forcément, quand vous êtes 30 et 45%, la bonne, je pense, stratégie était de dire on décale et on travaille.
C'est ce que disait ce matin le président de la Fédération française du bâtiment, Olivier Salmon.
Mais attention, je vous parle du dernier trimestre 2021. Je suis aujourd'hui au mois de juin, ça fait bientôt 8-9 mois. J'ai encore des chantiers qui ne sont toujours pas mis en chantier. C'est-à-dire que, après, la problématique qu'il y a, c'est qu'il y a...
Vous les arrêtez.
Mais non, mais surtout, on attend. Aujourd'hui, les coûts de travaux sont pas possibles. C'est-à-dire que nous, on fait un modèle, si vous voulez, de vente en bloc. On vend à des institutionnels qui ont des prix plafonnés, qui d'ailleurs, on demande aujourd'hui le rehaussement aujourd'hui de ces prix plafonnés. Mais aujourd'hui, le coût de construction est quand même la clé de nos constructions. Et malheureusement, l'augmentation qui augmente freine des milliers de logements. Et après, pour finir, qui va être touché? L'utilisateur. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait 4 millions de mal logés et 3 millions de personnes qui attendent un logement social en France. C'est ces gens-là qui vont encore attendre un logement parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'arrive pas à les construire. C'est une vraie problématique et c'est pour ça que si demain il y a un ministère du logement avec un ministre du logement, je peux vous assurer qu'il a quand même beaucoup de choses à faire.
Tiens, deux questions justement là-dessus. Il y a la question des APL, donc qui a été une mesure réduction des APL, mesure qui a été très contestée. Ils sont revenus un petit peu dessus. Il y a la question de savoir s'il faut revaloriser au niveau de l'inflation. Ça, c'est une décision qui doit être prise
pour les locataires.
Pour les locataires, absolument.
C'est un vrai problème.
Vous êtes favorable
Moi, je suis pas bailleur. C'est-à-dire qu'on dit, je suis constructeur, je construis pour les clients. Mais vous savez, aujourd'hui, Adila construit pour le monde HLM, mais construit aussi pour des institutionnels. Les institutionnels, depuis la crise du Covid, les grandes compagnies d'assurance, les fonds étaient revenus dans le logement. Malheureusement, aujourd'hui, avec l'augmentation des taux, aujourd'hui, et la non-augmentation et l'inflation par rapport à leur loyer, aujourd'hui, ils vont refuir malheureusement le logement parce qu'ils vont avoir une difficulté économique à pouvoir aujourd'hui trouver une équation pour réaliser leur
repas. Il y a un autre point assez clé, mais parce que c'est toujours dans ce logement social avec les HLM, même si vous n'êtes pas bailleur puisque vous êtes un promoteur immobilier.
Ce sont mes clients.
Sur la réduction du loyer de solidarité, la RLS, il y a une clause de revoyure qui doit être décidée avant le budget, je crois, 2023.
Oui.
Est-ce que les bailleurs sociaux disent, c'est-à-dire qu'on a baissé effectivement les loyers des Français, mais du coup, on a demandé aux bailleurs sociaux de baisser. Oui,
le monde HLM aujourd'hui n'a aucun problème de l'argent.
Ah bon? Mais si, ils disent que si.
Ils disent que
c'est pour ça.
Parlez-moi à moi. Vous savez, je suis leader de tout ça, donc je vais vous dire une chose. Mes clients n'ont pas de problème d'argent.
Ils disent que c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas construire.
Mais non, mais ce n'est pas vrai.
Au
bout d'un moment, pareil, il faut que le monde HLM aujourd'hui se réforme. On est passé en 2022, donc ça y est, on est dans un nouveau siècle. Il faut arrêter aujourd'hui d'aller tirer la manche de l'État pour leur demander des subventions. Aujourd'hui, là, le monde HLM a la Caisse des dépôts qui leur finance, qui aujourd'hui peut leur permettre éventuellement des indexations de crédit, loyer, pour même faire un peu plus loin. Non, aujourd'hui, l'argent n'est pas un problème dans le monde HLM. Aujourd'hui, la problématique aujourd'hui du monde HLM, c'est aujourd'hui de comprendre qu'aujourd'hui, le monde a changé et d'ailleurs, aujourd'hui, ils ont besoin du privé pour construire. Adila en est la preuve. Et donc, je peux vous assurer qu'en discutant aujourd'hui avec le monde HLM, il n'y a pas de problème de financement du monde HLM.
Donc,
aujourd'hui, il y a une problématique de production, elle est comme la promotion classique, c'est parce que les maires nous refusent le permis de construire. Mais si aujourd'hui, le monde HLM vous dit qu'ils conduisent moins à cause des problèmes financiers, c'est
ils le disent, vous êtes d'accord.
Comment?
Ils le disent.
Oui, mais c'est faux.
Ouais.
C'est faux. Aujourd'hui, on doit remettre aujourd'hui le cœur du débat, l'acte de construire. Il faut obliger les maires à construire. Et ça, malheureusement, on ne pourra pas faire autrement.
Les gens qui votent pour eux, leurs électeurs, ils n'ont pas très envie qu'on construise.
Oui, mais aujourd'hui, si vous voulez, ces mêmes électeurs qui ne veulent pas qu'on construise, ce sont les mêmes électeurs qui vont voir le maire, qui lui tirent la manche en disant « Monsieur le maire, ma fille divorce, mon fils divorce, ma maman aujourd'hui a un certain âge, il faut lui trouver un logement pour... » Voilà. Donc aujourd'hui, le logement est une cause nationale. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Et c'est ça, aujourd'hui, j'interpelle aujourd'hui le gouvernement et surtout notre président pour qu'il considère enfin le logement comme un produit de première nécessité. Et là, vous le savez, il y a un projet de loi sur le pouvoir d'achat. Le logement doit être une priorité dans ce projet de loi.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un chèque logement, non, c'est pas possible.
C'est pas un chèque logement, aujourd'hui c'est de remettre de l'offre sur le marché. Pourquoi aujourd'hui je dis que le logement est un produit de luxe? Il y en manque cruellement. Il manque des milliers, des millions de logements. Si aujourd'hui vous refaites partir la machine, si aujourd'hui vous construisez massivement, si aujourd'hui vous mettez aujourd'hui les maires devant leur
responsabilité,
aujourd'hui je peux vous assurer que, alors pas tout de suite, dans 5, 7, 8 ans, vous aurez aujourd'hui une courbe qui s'inversera. Il faut savoir une chose, c'est qu'on fait un métier qui est très long. Si moi, demain, demain, je vous achète demain votre terrain, je la livre 50 mois après. Voilà. C'est-à-dire que malheureusement, on n'a pas de baguette magique pour créer du logement aujourd'hui, immédiatement. Où il faut construire? Dans les zones tendues. Aujourd'hui, dans les métropolisations qu'ont voulu aujourd'hui nos politiques. Nos politiques ont voulu métropoliser aujourd'hui des grandes villes. Malheureusement, on y a tout mis, de l'emploi, on y a mis du transport, on y a mis des moyens. Et aujourd'hui, la seule chose qu'on a oublié d'y mettre, c'est le logement. Enfin, aujourd'hui, il faut quand même regarder devant sa porte. Aujourd'hui, le secteur du logement est malade. Je parlais tout à l'heure de Geoxia, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Vous allez voir, 2022, 2023, 2024 vont être des années très compliquées pour le secteur de l'immobilier. Et je pense que d'autres acteurs de la promotion immobilière seront malheureusement dans la même situation. Et cette situation, vous avez aujourd'hui des milliers de familles, aujourd'hui leurs maisons, elles sont arrêtées, d'accord. Et si demain vous faites la même chose sur le logement, ça sera pareil, ça sera une catastrophe quand même économique. Et donc, il faut aujourd'hui que nos politiques prennent conscience. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le politique qui peut nous sortir de cette situation-là avec cette volonté de faire.
Et situation difficile, en tous les cas, c'est ce que vous dites, Hervé Le Gros.
Mais il faut le dire, c'est une situation
compliquée. Notamment, j'ai compris sur la maison individuelle. Tiens, je ne vais pas. Notamment, la question de la rénovation, ça rend presque l'équation impossible.
La rénovation individuelle.
Et sinon, il nous faut un ministre du logement.
Merci.
Merci Hervé Le Gros. Le patron du groupe Alila, donc fondateur du groupe Alila. Merci beaucoup. Dans un instant, le journal. Après, c'est Elisabeth Ducotet, la présidente du groupe Twan, qui est l'ETI parfaite par excellence, qui sera avec nous. On parlera du Metal Chant. Et puis, je lui demanderai si elle continue à investir et à embaucher. À tout de suite.
BFM Business, le grand journal de l'écho. Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est un peu la star des ETI françaises. En tous les cas, c'est sans doute un des meilleurs porte-drapeaux. Bonsoir, Elisabeth Ducotet.
Bonsoir.
Merci d'être là. Vous êtes la présidente du groupe Twan, groupe familial. Vous êtes venue évidemment souvent ici sur le plateau du Grand Journal de l'Écho et vous allez fêter votre entreprise du mois, vos 175 ans. C'est dire si vous êtes implanté dans votre territoire. La question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'on sent que les ETI, elles sont dans une situation assez difficile. difficile, notamment les ATI industriels. Vous-même, vous êtes vraiment, vous êtes le leader de tout ce qui est les dispositifs médicaux non-invasifs, hein, comme on dit dans votre jargon. Vous avez 2700 collaborateurs, bref, 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Combien d'usines déjà à chaque fois?
Il y en a 5 en France et puis au total, France. On a une dizaine dans le monde.
Oui, et notamment en Allemagne, c'est important parce qu'on va parler d'Allemagne. Absolument. Comment est-ce que vous vivez cette situation-là? D'abord, est-ce que vous avez des problèmes d'approvisionnement? Est-ce que vous avez des problèmes d'embauche? Problèmes d'investissement?
Absolument. Ce que vous avez décrit, c'est exactement la réalité de ce que nous vivons. C'est-à-dire, les matières sont rares. Et elles sont même quelquefois inexistantes. Et les matières, pour nous, c'est des fils. Et les fils, ce sont très souvent des fils qui sont dérivés du pétrole. Donc, effectivement, on voit ces matières très rares, de plus en plus rares, ne plus nous arriver. Étant dérivés du pétrole, il y a un vrai risque autour. Et puis, avec des prix qui deviennent absolument variables à la hausse, et toujours à la hausse, rien ne rebaisse, donc qui gênent considérablement l'activité quotidienne. Les transports, c'est pareil. C'est-à-dire que dès qu'on transporte, en particulier si on transporte sur les mers, on arrive à des coûts de transport qui ont été dans des multiplicateurs incroyables, et il nous est arrivé là en ce moment, de transporter avec le coût de transport qui est supérieur à la valeur de ce qu'on transporte. Donc on est dans l'absurde total. Hausse, bien sûr, cette inflation, hausse des taux, hausse de salaire, rareté, bien sûr, aussi des collaborateurs, parce qu'il est beaucoup plus difficile de recruter. Et nous, c'est vrai, à Saint-Étienne, où on a un bassin d'emploi qui est quelquefois un peu plus limité, on a vraiment besoin d'aller chercher plus loin, et donc c'est plus difficile d'avoir les collaborateurs dont on a besoin. Donc une situation qui, en post-Covid, est une situation difficile, très difficile.
Ouais. Dans ces conditions-là, est-ce que vous arrivez à maintenir un niveau d'investissement?
Alors nous, vous savez, par principe, on les maintient, mais il y a un moment où on va être obligé de regarder vraiment les choses, parce que je pense qu'il va y avoir une période où nous allons assumer toutes ces difficultés et où nous les assumerons, je dirais, de façon probablement assez discrète. Il y a un moment où on sera obligé, en particulier, de remonter des prix, et remonter les prix, c'est se heurter à un marché qui n'est pas forcément prêt à les monter, et surtout dans des dispositifs médicaux où les prix sont très encadrés, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc la première année risque d'être peut-être un peu discrète, la deuxième année risque d'être dramatique et on ne sait jamais si on ne va pas être obligé de comprimer les résultats des entreprises, ce qui serait dramatique pour l'emploi et pour l'investissement.
Oui, c'est quand même un tableau assez noir que vous nous dressez, Elisabeth Ducotet.
C'est un tableau noir parce qu'on ne voit pas le bout de ce tunnel. On nous disait que ça ne va pas durer très longtemps, ça va durer jusqu'en juillet. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on voit le galop se continuer, on voit ce galop être maintenant mondial. Donc, effectivement, il y a une vraie gravité en ce moment. Il y a une véritable gravité.
Est-ce que ça se voit sur le terme de vos ventes?
Non, ça ne se voit pas encore sur les ventes parce que nous, on est dans la santé. Le besoin du patient, il est là. Et peut-être même, je dirais, il y a presque un rebond d'activité après le Covid parce que je pense qu'il y a beaucoup de patients qui n'ont peut-être pas changé leur matériel ou qui n'ont pas actualisé leurs besoins.
Remise à niveau.
Ouais. Et exactement. Et donc, il y a un effet de rattrapage. Et par contre, il va manquer très vite de produits.
Le produit du IRS, vous produisez des produits à base de fils,
oui.
Fils à base de pétrole. C'est pas très dans l'air du temps, c'est pas très RSE, ça.
Pas seulement. Nous avons aussi, là, par exemple, la fierté d'avoir des chaussettes de contention en lin. Donc là, le lin, premier producteur de lin, c'est la France. Voilà. Mais ceci dit, les caractéristiques de ces produits, qui sont d'ailleurs des caractéristiques définies par les cahiers des charges, nous obligent à un certain nombre de composants. Et puis nous avons bien sûr, pour la compression, nous avons de l'élastique. L'élastique, eh bien, ce sont des matières élastiques qui sont synthétiques.
Ouais. Donc pour l'instant, ça reste synthétique.
Ça reste synthétique, même si...
Et en même temps, on sait que la technologie, l'innovation est toujours très importante chez vous.
Oui, absolument. Absolument. On a 50 ingénieurs qui sont répartis en France, en Allemagne, aux États-Unis, et c'est vrai qu'on se porte beaucoup vers le digital, c'est-à-dire vers des éléments dans lesquels on aura des dispositifs médicaux qui seront connectés, et donc dans lesquels il y aura soit un enregistrement d'un certain nombre de paramètres, soit une stimulation ou des recommandations. Par exemple, quelqu'un qui a une maladie chronique, enfin qui a mal au genou de façon chronique, rien n'empêche de penser qu'il pourra suivre un certain conseil et qu'il s'auto-alimentera lui-même des conseils qui seront sur une app, par exemple.
Alors, la question... Vous avez décrit votre situation aujourd'hui, hein, du groupe, oui. ETI française, on l'a dit, ETI par excellence. vous travaillez beaucoup puisque vous avez les usines en Allemagne, oui. avec le, ce qu'on appelle le Mittelstand, oui. qui est un peu notre fantasme des ETI, parce que c'est vrai que le Mittelstand, c'est très fort, oui. c'est ce qu'on aimerait, nous, avoir en France. Vous avez créé une association, Ritex Mittelstand,
oui,
pour essayer de montrer qu'est-ce qui, si on nous compare. Qu'est-ce qui se passe si on nous compare ?
Alors, d'abord, ce qu'on peut affirmer, c'est qu'il y a un Mittelstand en Allemagne, il est bien connu, mais il y a un Mittelstand en France. Il y a un vrai Mittelstand en France, c'est-à-dire qu'il y a une population, il y a une forêt d'entreprises de taille intermédiaire en France, et ces entreprises, eh bien, elles sont exactement à l'identique de celles de l'Allemagne, quelquefois moins grosses en taille et quelquefois moins nombreuses aussi, ça c'est certain, mais il y a un Mittelstand français, et je dirais, il y a même un Mittelstand européen, c'est-à-dire qu'il y a partout en Europe de ces entreprises qui ont leur destinée dans leurs mains, qui ont une capacité industrielle, une capacité innovatrice et très souvent une capacité internationale et qui sont ce qu'on appelle les mid-cap. Et c'est vrai que nous nous sommes dit, avec la BPI qui a été le porte-drapeau de cette initiative qu'on a prise, travaillons ensemble avec un certain nombre de dirigeants allemands ou de dirigeants français mais d'entreprises allemandes du dispositif médical et faisons la même chose avec des dirigeants français et mettons ensemble ces dirigeants qui sont des dirigeants de bonne notoriété, qui sont des leaders très souvent sur leur marché et voyons comment par exemple a été vécue la période Covid dans ces entreprises outre-Rhin et de ce côté-ci du Rhin. Et mais ça a été passionnant.
Et vous voyez des grosses différences ?
Alors on voit à la fois des similitudes et des différences. On voit des différences parce que très souvent effectivement y a des... D'abord on n'a pas exactement tous les mêmes métiers. Mais on a, par exemple, si vous voulez, entre l'Allemagne et la France, des modes de réaction par rapport à la santé qui sont différentes. Notre organisation de la santé, elle est nationale et elle est nationale dans toute l'Europe. C'est-à-dire que on voit bien qu'il y a quand même un phénomène qui est très national dans la santé.
Mais est-ce que c'est juste un problème d'organisation de la santé ou est-ce que c'est un problème, je dirais, de structure, d'impôts de production. Vous voyez, c'est une comparaison, en fait, de TI, que ce soit dans la santé ou dans autre chose.
Je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une organisation de la santé qui est dans toute l'Europe assez nationale. Et nous avons voulu, avec un rétex, c'est-à-dire avec un vrai retour d'expérience, montrer à quel point ce qui se passait en France et en Allemagne avait des similitudes et des différences. Et que ceci nous portait à apporter des recommandations au pouvoir public en se disant, il y a probablement des choses à améliorer, soit dans l'organisation de nos entreprises, dire quelles sont les entreprises qui sont certaines d'être fléchées en cas de nouvelle crise, soit aussi dans les marchés. Est-ce qu'on peut dire que des ETI auront accès à des marchés publics de façon plus intéressante, enfin plus fléchée, ou même, je dirais, dans l'organisation générale de la santé.
Vous avez été reçu par Emmanuel Macron, vous le disiez, pour justement présenter ce Rétex Santé, Mittelstand Santé. Est-ce que vous avez parlé d'impôt de production avec lui ?
Alors, on a été reçu par son conseiller santé,
oui.
et qui a été très attentif à ce que nous lui avons emporté, parce que c'est in vivo, c'est-à-dire, c'est pas du laboratoire, c'est de la réalité terrain, c'est de la réalité...
C'est pas un rapport, ou une commission.
C'est pas une commission, exactement. C'est de la remontée d'expérience qu'on avait synthétisée, qui a été exprimée de façon, je crois, assez intéressante à lire, et nous avons aujourd'hui même été la portée également à la DGE, Direction Générale des Entreprises, qui également a été très attentive. Alors, ce que ça veut dire...
Mais est-ce que ça veut dire quand même, pardon, sur les impôts de production, parce que c'est toujours, on dit toujours, c'est une grande revendication du MEDEF, hein, de dire qu'il y a un différentiel quand même de 70 milliards avec les Allemands. Est-ce que pour vous, c'est ce qu'il faudrait ? S'il y avait une mesure à prendre, ce serait celle-là ? Ou il y en aurait d'autres ?
Je pense que d'abord, il y a une mesure qui a été prise. Et ça, on ne peut pas ne pas la saluer, cette mesure-là, parce que c'est une belle mesure qui marque, je dirais, une première étape de l'escalier. Parce qu'il faut que, quand on soit sur un terrain en commun, il faut qu'on puisse jouer avec des règles qui soient à peu près identiques. Et donc, les impôts sur la production en France et en Allemagne sont franchement différents. Donc, le premier pas qui a été fait en France, et qui date d'il y a quelques mois, est un bon premier pas. Il faut que ça ne reste que ce soit un premier pas d'une suite dans laquelle...
Mais donc, il faut un deuxième pas, c'est ça que vous dites quand même.
Pas, il faut oser l'industrie actuellement en France. Il faut vraiment l'oser. Parce qu'on voit bien, par exemple, Nicolas Dufour a écrit un ouvrage qui est tout à fait intéressant. Il dit,
ah oui, il est venu ici l'expliquer.
Le monde,
oui.
Mais c'est la faute de tout le monde.
Des politiques et des chefs d'entreprise. Hein,
exactement. Oui. On a tous.
Alors attendez, Elisabeth Ducotet, vous avez tous votre responsabilité. Vous allez voir, moi, il y a un point. On a beaucoup parlé de digitalisation. Il y a le salon Vivatech aujourd'hui. Je ne sais pas du reste si vous y êtes. Il y a une étude du BCG pour le MEDEF qui montre quand même que les entreprises, bon, la digitalisation, c'est très important, mais ce n'est pas rentré dans la structure même de l'entreprise. Ça reste assez superficiel ou en trompe-l'œil, pour reprendre leur expression. Chez vous, je sais que l'innovation, c'est toujours très important. Vous avez même ouvert un centre de recherche. Est-ce que si on veut réindustrialiser la France, il faut que ça passe par la technologie ? Sinon, ça ne va pas fonctionner.
Vous avez raison. Mais je dirais, il y a eu un énorme coup de butoir et d'obligation de faire qui a été le Covid. Et donc, on a tous progressé énormément à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on s'est mis en télétravail, on a été obligé de relier les gens les uns avec les autres d'une autre façon, on était obligé de digitaliser un certain nombre de nos services. Donc, je dirais que malheureusement, c'était inattendu et ça a été douloureux, mais on a fait énormément de progrès. Donc, je ne crois pas qu'il faille dire que la France est trop en retard sur le plan digital, parce qu'on a beaucoup progressé dans les deux dernières années. Beaucoup, beaucoup.
Donc, si on résume là, vous avez des prévisions d'embauche qui sont, ben pour l'instant, elles sont nulles, faute de combattants, si j'ose dire.
Alors, effectivement, il est difficile de recruter actuellement. Il est difficile de recruter à tout niveau, c'est-à-dire aussi bien des experts, des collaborateurs qui ont vraiment une expertise très transversale, que des leaders, des managers. Donc, effectivement, l'embauche actuellement est difficile. Donc, effectivement, ça prend plus de temps, c'est plus long. Et il faut donc donner de plus en plus, je dirais, du sens à nos entreprises. C'est-à-dire montrer à ceux qui sont là et qui collaborent. Et dans le fond, à 175 ans, une entreprise, elle peut dire... je dirais bravo à tous les collaborateurs qui ont œuvré à ce 175 ans que nous fêtons en ce moment. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il faut montrer le sens de l'entreprise. Il faut qu'il y ait un sens au travail qu'on fait.
Et vous travaillez donc dans le secteur de la santé, on l'a dit et redit évidemment chez Tuan. Est-ce que la santé, vous avez le sentiment, c'est un monde un peu ubuesque comme on le décrit très souvent ?
Oui, c'est un monde ubuesque. C'est un monde ubuesque parce qu'on a une santé qui est la plus équitable peut-être au monde, c'est-à-dire qui est la mieux répartie. Et en fait, qui est totalement inéquitable dans son exercice, c'est-à-dire qu'il y a un désert médical qui fait que la santé n'est plus accessible. Alors que dans son principe, elle est équitable. Donc on est dans une absurdité de cette santé qui, dans son principe, devrait pouvoir soigner tout le monde et qui, dans la réalité, ne soigne pas tout le monde parce qu'il y a eu des déviations considérables, les urgences ont fait un travail qui ne leur était pas destiné et que la désertification dans les petites villes ou dans les villages est effrayante.
Ouais. Vous avez 22, j'ai vu ça en préparant encore une fois cette interview, vous avez 22 essais cliniques. Sur quoi ?
On a des essais beaucoup, cliniques hein. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup et effectivement, on est assez fiers de ça. D'abord parce que c'est un investissement et c'est un investissement de recherche. Deuxièmement, parce que ça permet d'avoir la certitude que quand on amène un dispositif médical, il fonctionne. C'est-à-dire qu'il a été prouvé. Et donc, ces 22 études cliniques que nous avons en cours en ce moment, ça suppose environ 900 personnes qui sont testées avec des dispositifs qui viendront ensuite sur le marché.
D'accord,
donc
merci
un gros
beaucoup.
Travail scientifique.
Gros, oui, de recherche justement. De recherche, en disant que vous étiez très en pointe là-dessus.
Ah, absolument.
Merci beaucoup. J'ai envie de dire bon anniversaire, bon 175 ans. Merci beaucoup, Elisabeth Ducotet, d'avoir été avec nous. Mais surtout, on voit quand même que vous êtes à un moment un peu délicat, un peu charnière pour une ETI comme la vôtre. Vous pouvez évidemment réécouter tous ces propos d'Elisabeth Ducotet sur le podcast de BFM Business. Le Grand Journal se poursuit. Merci beaucoup. Tout de suite, l'actu.
BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon.
Le grand journal de l'écho se poursuit avec On refait l'écho comme tous les soirs. Le débat aujourd'hui, les crypto-monnaies, est-ce que c'est la fin des crypto-monnaies ? Est-ce que c'est une économie de casino ? On en parle avec, par ordre alphabétique, deux personnes qui connaissent très bien le sujet. Nicolas Louvet, qui est le patron de CoinHouse. Bonsoir Nicolas Louvet, merci d'être avec nous.
Bonsoir Edwige, merci de m'avoir invité.
On verra si c'est vraiment l'enfer pour vous, voulons tout raconter. Et face à vous, un député sortant, La République en marche, Pierre Person, qui vient de commettre un rapport qui a planché pendant quasiment un quinquennat sur cette question des crypto-monnaies. Bonsoir Pierre Person, merci. Juste une question, pourquoi député sortant, vous ne vous représentez pas ?
Non, je vais faire autre chose. Je pense que la politique, c'est pas un métier. Et puis, quand on a assez fait, quand on veut voir autre chose, bah, il faut savoir raccrocher les crampons. Et puis, pourquoi pas revenir après? Voilà, je pense que c'est bien. Il y a une génération comme ça. J'ai beaucoup de collègues, de jeunes collègues qui arrêtent et pour voir autre chose et qui s'engagent autrement.
Ça leur a pas plu. Surtout, c'est ça que ça veut dire.
Je pense que le Parlement peut être plus renforcé, ça c'est sûr.
Plus utile,
exactement.
Oui, mais maintenant, vous avez le CNR, le Conseil national de la refondation, un truc formidable, vous allez voir. Juste, vous allez vous reconvertir dans les, je sais pas, avec CoinHouse, dans les cryptos.
J'ai pas encore tranché, à vrai dire, mais je resterai toujours engagé sur le sujet parce que c'est quasiment une conviction politique. Moi, je pense que cette technologie transformera le monde et donc je continuerai à la défendre.
Alors, on va voir ça avec Nicolas Louvet. Je pense qu'il ne va pas dire forcément le contraire. Hein. D'abord, en deux mots, CoinHouse, je peux dire ce que c'est, mais autant que vous le disiez.
Plateforme d'investissement dans les crypto-actifs, une cinquantaine sélectionnées pour les particuliers, pour les entreprises. Facile d'accès, français, contrairement à quelques autres plateformes qui sont accessibles également en France. Avec un vrai service client, avec de l'emploi qui est créé et qu'on va continuer à développer. Et tout un tas d'autres services, puisqu'on propose pas que l'accès à des cryptos, on propose des produits de mandat, des livrets. Et on adresse aussi des entreprises avec les services de paiement en crypto qui sont une activité qui va énormément se développer.
Mais alors, juste, est-ce que c'est l'enfer pour vous en ce moment? Le crack, comment vous l'avez subi, traversé? Enfin, vous êtes, autant utiliser le présent, du reste, non? Enfin, je sais pas, je vous pose la question.
Pas du tout, parce qu'en fait, c'est le troisième cycle que l'on vit. C'est pas le dernier. Il y a un cycle dans les cryptos qu'on observe. On est parti de très bas, de 14 ans, le Bitcoin n'existait pas. Aujourd'hui, il vaut 20 000 euros. Demain, il vaudra sans doute un peu moins. Et dans quelques années, il vaudra sans doute beaucoup plus. Et donc, on a déjà vécu ces cycles. On est dans un cycle baissier. On appelle ça un bear market. On est dans un cycle baissier. Et moi, j'aurais tendance à faire un petit plagiat littéraire. L'enfer, c'est pas les autres. L'enfer, c'est les autres actifs. Parce que je pense que la vraie situation dans laquelle on va arriver... C'est surtout la crise économique qui nous arrive et je pense que les cryptos sont juste un précurseur de tout cela et vont sans doute mieux réagir que d'autres actifs qui vont fortement plonger dans les mois ou trimestres qui vont venir.
Eh ben au moins comme ça lance le débat. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Persson? Parce que vous-même dans votre rapport, vous dites en fait ces crypto-monnaies, c'est vrai qu'il y a des termes. Chaque fois,
c'est horrible.
On ne sait même plus lequel il faut employer de peur de ne pas être
crypto,
exactement.
Crypto, c'est simple.
C'est pour ça que je dis crypto. Vous avez bien raison.
Il y a actifs numériques, crypto-actifs, crypto-monnaies qui ne veut pas forcément dire grand-chose. NFT, crypto, c'est très bien.
Mais vous dites dans votre rapport, c'est un objet, enfin, ce sont des objets protéiformes difficilement définissables. Là, je suis vraiment d'accord avec vous. Et est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Nicolas Louvet, comme quoi l'enfer, ce n'est pas les cryptos, ce sont les autres actifs qui vont s'effondrer?
On parle beaucoup ces derniers temps de prix. La presse généraliste parle beaucoup du prix. En fait, il y a bien entendu une baisse du prix, mais il faut aussi regarder ce qui se passe sur les marchés traditionnels. Je veux dire, les indicateurs macroéconomiques sont très mauvais et il va y avoir notamment des conséquences sur l'emploi, sur l'économie réelle. Donc les cryptos sont précurseurs parce que c'est un instrument, enfin c'est un actif qui sont très souvent liquides et donc qui sont bazardés les premiers. Et donc la baisse se voit directement sur ces cryptos. Mais quand vous regardez Google, Facebook, Tesla, les actions, on est quasiment à moins 70% par rapport au plus haut. Et donc on traduit la même chose. Ensuite, sur la nature des cryptoactifs, moi j'aime bien le terme crypto parce qu'en fait il y a des cryptoactifs, des cryptomonnaies, il y a...
Mais c'est quoi la différence entre crypto-actifs et crypto-monnaie?
Eh bien, c'est qu'il y en a une qui est une monnaie, puis il y en a un autre qui est un actif. Une monnaie, elle est stable, elle est très souvent parfois corrélée avec la monnaie traditionnelle, la monnaie fiat, qui est donc en fait la monnaie ayant cours légal, l'euro, le dollar, le yen, etc. Et puis, vous avez des actifs qui, eux, sont volatiles, qui représentent parfois une performance, soit d'un réseau, soit d'une entreprise. Et donc, ils ont vocation à bouger et à fluctuer dans le temps.
C'est des termes qui vont évoluer.
Qui vont simplifier.
Parce que, en fait, la nature même des cryptos qui peut tokeniser, c'est encore un terme un peu barbare, énormément d'éléments. Ça peut être de la monnaie fiduciaire, ça peut être de la dette d'entreprise, ça peut être des actifs immobiliers. Très bien, le terme crypto-monnaie ne veut pas forcément dire grand-chose. Quand j'ai un NFT, une crypto-monnaie, un NFT, c'est un actif non fongible, c'est une œuvre d'art éventuellement digitalisée et unicisée dans une blockchain. Honnêtement, c'est pas évident. Donc, le terme crypto, on va considérer qu'il généralise et englobe. Et ensuite, au sein de cela, vous aurez différentes classes. Vous avez quelques parallèles financiers entre actifs financiers et à l'intérieur des actifs, vous avez des obligations, remboursables, des actions, etc. Je pense qu'on va arriver sur ce type de parallèle.
Oui, donc en tout cas déjà de simplifier, c'est un point important. J'ai juste une question, puisque Coinhouse c'est aussi une plateforme d'échange justement de ces crypto-monnaies. Est-ce que les échanges ont baissé, sont effondrés?
C'est une plateforme d'échange au sens où on est capable de faire la conversion euro-crypto, en soi c'est un échange, mais on utilise souvent le terme d'échange comme une bourse, comme le Nasdaq ou Euronext, on n'est pas une bourse.
D'accord.
Ça, il y a d'autres acteurs qui le sont, c'est un marché intéressant, il faut une bourse si on n'a pas de liquidité. Moi, je suis plus dans la relation client final et je vous aide à acheter ces cryptos, ce qu'on appelle un broker et ce que je définis comme étant une crypto-banque. Bien évidemment, quand les volumes globaux baissent, on va avoir un impact sur notre activité. Après, les gens se positionnent et notre niveau de vente en euros, par exemple, est incroyablement stable et reste à 9% de nos activités depuis plusieurs mois. C'était 9% quand les cryptos étaient au plus haut, donc les gens ne vendent pas en euros. Quand les cryptos, entre guillemets, se cassent la figure, comme on peut le voir actuellement certains jours, mais ils remontent aussi d'autres jours, les gens ne vendent pas en euros. Ils vendent en stablecoin.
Voilà, justement, c'est la question que j'avais posée, parce qu'il en parle beaucoup dans son rapport, justement. Et ces stablecoins, c'est surtout utiliser l'expression surtout aux États-Unis, en fait.
En fait, le terme est américain parce que malheureusement, une bonne partie de cette nomenclature vient de l'anglais. Mais vous avez des stablecoins euros qui commencent à émerger et Pierre en parlera sans doute bien mieux parce qu'il a une vision dans son rapport extrêmement forte, notamment par rapport au rôle de la banque centrale et des autres banques ou des acteurs privés dans ce domaine.
Justement, ça, c'est la deuxième partie, je trouve, qui est très intéressante avec les cryptos, les stablecoins, c'est de voir quel est le rôle des États par rapport à ça, quelle est leur position. Et visiblement, c'est ce que vous décrivez dans votre rapport, c'est que les positions sont différentes entre les États-Unis et notamment l'Europe, qui est assez réticente quand même par rapport au développement de ces cryptos ou stablecoins. Qu'est-ce qui vous a frappé, vous ?
On a commencé en fait à parler des stablecoins, en tout cas des cryptos en tant que monnaie, lorsque Facebook s'est intéressé à la chose, avec Libra.
Oui.
Et c'est là où le politique s'est réveillé en disant « Oh, attention, il peut y avoir un impact sur la souveraineté européenne. »
Et que Benoît Cœuré a fait un rapport au niveau de la Banque Centrale Européenne et de la BRI.
Exactement. Et là où je conteste, en tout cas de mon point de vue, le vrai enjeu, c'est pas tant en fait que cette souveraineté sera grignotée par des acteurs privés demain, c'est qu'aujourd'hui, il y a un enjeu de guerre monétaire entre l'Union européenne, avec l'euro, avec le dollar et avec la devise chinoise. Et donc, l'euro, entre les deux, elle est nulle part. C'est-à-dire qu'elle a une politique à 3 ou 4 ans d'émission d'un euro digital, mais entre-temps, elle ne veut pas, en fait, de stablecoin privé. Et de l'autre côté, les Américains, eux, sont très contents d'avoir des acteurs privés qui répartissent, répandent, finalement, le dollar, notamment dans des zones peu bancarisées. C'est le cas, par exemple, en Amérique du Sud. Donc, on voit bien qu'il y a un rapport de force qui se joue entre les monnaies.
Qui est en train de se jouer.
Ouais. Exactement. Et tant en Asie avec le renminbi numérique qui va conquérir en fait des parts de marché monétaire en Asie de l'Est, en Afrique de l'Ouest et bientôt on pourra commercer avec la Chine avec sa monnaie, ce qui est aujourd'hui pas le cas parce qu'elle a un contrôle très très strict aujourd'hui de l'émission monétaire et surtout de ce qu'on peut sortir de Chine en termes de monnaie. Et puis de l'autre côté, les Américains qui sont en train de renforcer dans ce nouvel écosystème, dans cette nouvelle finance en fait, leur hégémonie parce que tout est libellé en dollars. Nous, l'Europe, il y a personne, il y a rien. Il y a des acteurs privés qui n'auraient pas le droit mettre parce que vous comprenez, ça pourrait être un risque pour la souveraineté monétaire et on attend encore la Banque Centrale sur la question finalement de l'euro digital.
Elle travaille dessus en tous les cas.
Oui.
Parce que ce que vous dites, c'est de la désintermédiation, on voit bien que ça va accélérer la question en tous les cas de cet euro digital ou de ces monnaies digitales.
La transformation d'une industrie.
Et la transformation de l'industrie, absolument, bien sûr.
Bancaire et financière et du coup ça pose la question aussi de la souveraineté et du rôle important en fait que l'Europe, la France notamment, qui est un des fers de lance sur ces questions en Europe, doit se poser cette question de qu'est-ce qu'on va faire sur ces sujets. Là où, comme le disait le député Persson, vous avez la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre qui ont déjà fait quelque part des choix, sont déjà positionnés. Là où aujourd'hui on est beaucoup trop frileux en Europe avec Christine Lagarde et même avec le gouvernement français.
Oui, mais c'est un vrai enjeu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est quand même une question de souveraineté quand même. Donc on peut faire comme ça. Tiens, si on faisait une crypto-monnaie, vous voyez ce que je veux dire.
Ce qu'il faut considérer, c'est que la crypto-monnaie, et c'est pour ça qu'il faut l'expliquer aux téléspectateurs de manière très simple, c'est que c'est comme le billet de banque, c'est la traduction dans un nouveau support en fait de la monnaie traditionnelle.
Oui,
on vient pas challenger aujourd'hui les moyens, les leviers de politique monétaire. La banque centrale aura toujours ses ratios, elle émettra toujours de la monnaie centrale, etc. Aujourd'hui, principalement, la monnaie, elle est privée. la monnaie entre les banques, c'est de la monnaie privée qui est aujourd'hui émise par les banques commerciales selon les ratios de la banque centrale. Donc en fait, le sujet, il n'est pas vraiment là. Il est, est-ce qu'on laisse les Américains et les Chinois sur ce nouveau type de devise être hégémonique ou est-ce qu'on a une stratégie ? Et ça peut être une stratégie publique via un euro digital. Mais pour ça, il faut trancher véritablement ce que l'on veut politiquement.
Et ça, c'est un très, très gros enjeu. Nicolas Louvet, est-ce que entre la... Je reviens un peu sur ce qu'on disait sur l'aspect conjoncturel au début. Ouais, qui a craqué, est-ce que vous voyez, comment vous voyez évoluer du reste ces monnaies, notamment le bitcoin? Ouais. On sait qu'il y a la guerre en Ukraine, il y a l'inflation. Est-ce que cette chute, elle va se poursuivre encore pendant quelques temps? D'abord, est-ce que vous avez été quand même très surpris par la... Enfin, un crack, c'est toujours assez rapide, mais bon, c'est vrai, la soudaineté, on va dire. Non, ne riez pas, Pierre Persson.
Il y a trois facteurs qui ont à prendre en compte. Il y a d'un côté le premier facteur qui est la conjoncture mondiale qui a impacté, et Pierre le disait tout à l'heure, sur les principales valeurs qui sont des valeurs risquées, valeurs technologiques, etc. On est sur des actifs à risque, donc tous ceux qui aujourd'hui se positionnent sur ces actifs et qui doivent justement en sortir parce qu'ils estiment que le coût du risque est trop élevé, vont sortir également du Bitcoin et d'autres cryptos. Donc là, il y a une chute. Après, il y a des éléments qui ont provoqué une chute, une amplification de cette chute et un élément brutal. Il y a eu deux facteurs importants. Au mois de mai, il y a eu l'arrêt et la faillite d'un projet autour d'un stablecoin algorithmique poussé par une fondation qui s'appelle Luna et un stablecoin UST et un token qui s'appelle Luna. Donc ça, c'est un élément un peu...
Qui a, en tous les cas, qui a mis une petite graine dans la tête des...
Il y avait des éléments à coureur, mais ça a été considéré comme un signe noir, parce que le montage financier pour détruire ce stablecoin est particulièrement violent et particulièrement malin, mais dans sa violence. Et plus récemment, on a un problème avec une grande plateforme de prêt crypto qui s'appelle Celsius, qui a encore accéléré. Donc, je pense que là, on a bien absorbé. En réalité, on est quand même beaucoup plus bas aujourd'hui que la réalité du marché par rapport à la prise de risque. Donc, il n'est pas impossible qu'on ait une respiration. En revanche, ce que je pense être une crise économique qui est devant nous va sans doute refaire plonger les marchés un peu plus tard, mais pas nécessairement maintenant.
Alors, vous avez signé un partenariat, enfin levé en tous les cas 40 millions d'euros.
On vient de lever
avec la Banque d'Odo, donc qui a un label, c'est très respectable, hein, comme dirait le député Persson.
Une des premières banques franco-européennes, franco-allemandes.
Avec Philippe Odo, et un partenariat avec Conto. En fait, c'est pour faire quoi? Il y a un côté s'institutionnaliser.
Alors, bon, la levée de fonds, Odo a participé. On a d'autres fonds prestigieux, True Global Ventures, Stioga, les fonds historiques Xange, etc. On a levé auprès, même des grandes familles françaises qui ont participé. On est très contents parce qu'on a plein de projets à faire avec eux. Au-delà de ça, il y aura des partenariats avec des gens parce que nous, on ne peut pas vouloir devenir la première crypto-banque européenne tout seul. Nécessairement, on fait des partenariats. Ces partenariats doivent se construire avec l'accès à des marchés, la facilitation. On veut pas devenir un concurrent de Conto. C'est une superbe fintech pour les professionnels, pour les freelancers, les auto-entrepreneurs, pour les PME. Ils ont une superbe solution. En revanche, ils ne seront jamais PSAN, ils ne vont jamais proposer de la crypto. Donc, se marier avec eux, c'est très intéressant. Odo, c'est une des premières banques privées. Ils sont présents en Allemagne, en Suisse, en France. Pas inintéressant de commencer à imaginer des produits. Ils sont dans l'asset management. On fait de l'asset management. Il y a beaucoup de choses à faire. Et ce n'est pas les seuls avec lesquels on voudra construire quelque chose. On a clairement l'envie de s'établir dans des partenariats de long terme en Europe parce que on pense qu'on est la banque de demain et la banque de demain, elle se construit pas tout seul. Ou alors, il faudra qu'on lève des milliards. C'est pas nécessairement le chemin le plus évident. Il y a aussi des chemins par des partenariats.
Rapidement, Pierre Persson, parce que justement, le titre de votre rapport, c'est Monnaie, Banque et Finance. Est-ce que vous avez le sentiment que ce qui veut faire une crypto-banque, ça sera la banque de demain, après, à l'issue de votre enquête que vous avez mené pour publier ce rapport?
Bon, les banques telles qu'elles existent aujourd'hui vont nécessairement changer demain. Elles seront, à mon avis, plus décentralisées. Elles seront, à mon avis, plus transparentes. Elles seront, à mon avis, plus faibles.
Elles seront crypto?
Oui, elles seront essentiellement crypto. Mais parce qu'en fait, aujourd'hui, demain, la monnaie sera crypto.
Et quand on dit demain, c'est quand? Quelle échéance pour
demain, c'est 5 à 10 ans.
Exactement.
Ouais, donc assez rapide.
Et regardez l'adoption de toutes les nouvelles technologies. On est sur un facteur d'accélération. Donc 5 à 10 ans, grand max.
Il y aura des banques autonomes. Les Américains sont déjà préparés à ça. Le régulateur américain a déjà envisagé d'agréer des banques qui seront totalement autonomes.
Vous avez quelques acteurs en Suisse.
Ouais. Puis à vous.
Et puis à nous.
Et puis à vous.
Nous sommes européens et français.
Voilà. Coinhouse.
Merci.
Nicolas Louvet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pierre Persson, on ne sait pas encore ce qu'il va faire, s'il sera dans les cryptos ou pas, en tous les cas, ex-député. Et surtout, ce rapport, qui, c'est vrai, je dois reconnaître, qui m'a remis quelques idées en place, hein, parce que, puis un lexique, c'est assez utile parce que, pour essayer d'y comprendre quelque chose. Merci à vous deux, on aura certainement l'occasion d'en reparler. Voilà, c'est la fin du Grand Journal de l'Écho. On se retrouve, rediffusion, vous le savez, 22h minuit, ou alors sur le podcast de BFM Business, dans un instant. Bah, tiens, on va continuer à en parler. Tech & Co, François Sorel. Mais avant, évidemment, la décision de la Fed qui est très attendue ce soir.
Le grand journal de l'écho sur BFM Business.